Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Périgord littéraire. Alors aujourd'hui, je suis au studio à Périgueux et donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi Madame Catherine Schunk.
Est-ce bonjour,
que je prononce bien ?
C'est tout à fait ça.
Voilà, c'est ça, c'est bien. Et qui est l'auteur de La Chapelle, Gonaguet et Merlan. Non, c'est pas trop loin de Périgueux,
on est... un petit quart d'heure. Oui, un quart d'heure de Périgueux.
Voilà, et alors c'est un livre qui est apparu aux éditions du Perce-Oreille. Voilà, c'est un livre qui vient de paraître.
Il vient de sortir.
Oui, voilà, du Perce-Oreille. Donc, on reparlera du Perce-Oreille parce qu'ils éditent quand même pas mal de choses, notamment sur le Périgord, c'est intéressant.
Je crois que c'est sa troisième monographie.
Oui. Et donc, La Chapelle, Gonaguet et Merlan. Alors, comme je disais, Merlan, bon, pour moi, est le plus connu. Mais, Madame Schunk, vous avez quand même une biographie quand même qui est assez importante. Et vous avez écrit d'Alsace en Périgord.
Oui, nous avons écrit plusieurs livres sur la présence alsacienne en Périgord pendant la Seconde Guerre mondiale, avec mon mari. Ça, c'est des... coaction.
Voilà, vous êtes d'origine...
Moi non, mais moi je suis périgourdine, mais mon mari, lui, est d'origine alsacienne. Voilà, c'est ce qui a fait que...
Alors il y a l'Alsace-Périgord, le choc culturel, ça je veux bien le croire. Mm-hmm. Je veux bien le croire. Il y a entre Sarlandais, Bergeracois...
Alors ça c'est autre chose, ça c'est une monographie sur Saint-Avid-Seigneur que j'ai faite toute seule. Là.
Ah ben d'accord. Oui, effectivement, oui, il n'y a que votre nom. Alors... Ensuite, on va replonger avec, si je puis dire, les Alsaciens, réfugiés alsaciens, Mosellans en Périgord, sous l'occupation. Ensuite, il y a en Dordogne, année de rupture.
1940 en Dordogne, année de rupture, oui.
Effectivement. Ah oui, j'ai oublié 1940. Et à Strasbourg, Périgueux, Ville-Sœur.
Voilà, c'est le dernier de la série alsacienne.
Voilà. Et ensuite, il y a Yasmine Moulay-Brahim.
Yasmine Moulay-Brahim, une femme libre.
Voilà, donc ça fait quand même pas mal.
Il faut s'occuper.
Bien. Et alors, je vais être un petit peu indiscret. Quelle est votre profession? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faites?
Moi, je suis retraitée. J'étais assistante sociale, formatrice. Et depuis que je suis à la retraite, ça fait un petit moment quand même maintenant. Donc, nous nous sommes mis à écrire des livres avec mon mari, donc des recherches historiques sur les Alsaciens en Dordogne. Et puis, nous avons écrit chacun une petite monographie sur nos villages dont nous sommes originaires. Saint-Avid-Seigneur, c'est une partie de mes ancêtres viennent de là. C'est pour ça que j'avais écrit cette monographie. Et puis, La Chapelle, Gonaguet, c'est parce que nous avons habité La Chapelle, Gonaguet. Nous nous y sommes même mariés. Et nous aimons bien cette commune. Et voilà, donc, j'ai eu la chance de rencontrer l'ancienne secrétaire de mairie qui avait accumulé toute une documentation, des témoignages d'anciens, des photos, et qui m'a tout généreusement donné, ce qui fait que il y avait matière à écrire un livre. Voilà, et j'aime bien les monographies. C'est un petit peu comme un puzzle pour découvrir une commune, tout ce qu'il a fait, voilà.
Ouais, c'est intéressant parce que Chapelle Gonaguet, on connaît de nom.
C'est
connu Merlan, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même connu. Et je dois dire que la Chapelle Gonaguet et Merlan, alors, c'est deux paroisses, une commune aux portes de Périgueux, comme l'on le disait, et c'est édité par les éditions du Perce-Oreille qui se trouve au Coux.
Oui.
Voilà. Et donc, vous venez de Saint-Avid-Seigneur.
Maternelle venait de Saint-Avid-Seigneur. Moi j'habite Périgueux depuis pas mal d'années.
C'est quand même plus près.
C'est plus facile.
C'est quand même... Alors, en feuilletant ce livre que j'ai lu avec grand intérêt, et il y a une chose qui m'a frappé, c'est dans la chapelle Gonaguet, il y a le côté dans l'église, il y a le côté de l'évangile, les côtés de l'épître.
Oui.
Alors là, c'est à droite et gauche.
Voilà, c'est droite et gauche de l'autel. Parce qu'on lisait, autrefois, je ne sais plus maintenant, mais autrefois, on lisait l'épître d'un côté et l'évangile de l'autre. Donc,
Alors, cette commune de Chapelle-Gonaguet, quand même, a connu quelques fluctuations. Il y a beaucoup de maires, il y a beaucoup de...
Oui, je pense qu'elle n'est pas originale en ce sens que, c'était un peu partout dans les petites communes. En fait, elle n'a pas... En tout cas, on ne trouve pas dans les registres de délibération du conseil municipal, on ne trouve pas d'écho des grands événements historiques, les changements de régime. Bon, tout ça, ça a l'air de se passer. Ils sont très préoccupés par des choses terre à terre. L'entretien de l'église, l'entretien des chemins, ça c'est... Oui. Hein, et puis, une école. Donc, ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps avant de réussir à trouver un local convenable pour l'école. Ça a mis au moins 30 ou 40 ans.
Oui, oui, ça a mis longtemps. Alors, par contre, il y a un chapitre, c'est le mystère Benoît Lassagne.
Oui.
Alors là, c'est assez curieux.
Oui, parce que c'est un maire. Donc, on a aux archives un arrêté du préfet qui nomme un Benoît Lassagne comme maire. L'année d'après, alors attendez, parce que là je suis un peu...
Oui, mais faut reprendre l'ouvrage. Alors, on trouve sa signature.
Voilà. Et en fait, on trouve des signatures. En fait, le problème, c'est que toutes les signatures sont signées Lassagne. Il n'y a pas de prénom. Mais dans le recensement qui suit la période où il aurait dû être nommé comme maire, c'est un autre qui est désigné comme maire.
Ah oui.
C'est j'ai perdu qu'il y a marqué, le prénom.
Vous avez des reproductions, il y a signature du maire signé Lassagne. Et effectivement, oui. Il n'y a pas de prénom.
Voilà.
Alors c'est un peu compliqué.
Voilà, 1864, Benoît Lassagne. Voilà. Et l'année d'après, on nomme un maire Lassagne sans précision de prénom. Et dans le recensement de 1866, le maire qui est indiqué, c'est Narcisse Lassagne, qui a été pour moi élu maire en 1871. Ça, c'est sûr. Donc, et là, j'ai indiqué, c'est bien celui de Narcisse, c'est pas celui de Benoît. Et on ne trouve aucune trace de ce Benoît nulle part, ni dans l'état civil, ni dans l'armée, ni, enfin rien. Donc, je me demande s'il n'y a pas eu une erreur. Enfin, bon, j'avoue que, en tout cas, je n'ai pas trouvé la solution. Bon, c'est un petit mystère.
Je croyais que vous alliez nous la donner, là.
Mais non, non.
C'est récent, si l'on peut dire.
C'est des années 1800, avant la guerre de 70.
Oui, c'est ça, voilà. Oui. Ça aurait été en 1870, c'est pas si vieux que ça, si on veut.
Non, et j'ai regardé les délibérations, c'est toujours le maire Lassagne, il n'y a pas le prénom d'indiqué.
Ah oui, c'est curieux, d'ailleurs.
C'est curieux.
Bon. C'est curieux, parce qu'ils tenaient quand même à mettre leur nom...
Ben oui, mais...
Oui. Alors, cette école a connu quand même beaucoup de fluctuations.
Beaucoup de fluctuations.
École des filles, école des garçons.
Oui, mais c'est surtout que, bon, ils avaient acheté un bâtiment qui, en fait, était tout à fait en mauvais état et qui, donc, ne pouvait pas permettre. Ils ont voulu construire, ils ont voulu acheter des maisons anciennes, les rénover. Enfin, bon, ça a mis beaucoup de temps. Et finalement, l'administration, le ministère leur a dit que non, il fallait construire une école neuve. Et donc, ils ont acheté un terrain qui est là où il y a l'école actuelle. Et donc, ils ont construit cette école-là. Mais c'est seulement en 1877, je crois. Enfin, donc, oui. Très tard.
Oui, ça a mis un certain temps.
Ça a mis un certain temps entre la première école. Je crois que ça a dû mettre 30 ou 40 ans.
Oui. Et qu'est-ce qui vous a incité à faire cette monographie ?
Eh bien, l'intérêt pour la commune et le fait que j'avais trouvé, comme je vous disais, plein de documents de la secrétaire de mairie qui m'a beaucoup aidée dans mes recherches. Ça m'a donné une base pour approfondir.
Oui. Mettre en page, ça peut être évident, une monographie, non ?
Non.
C'est on pas... part
ça n'est pas
les dates
Non, enfin après, il faut trouver... Il faut trouver le fil conducteur. Oui. Et puis, donc là, j'ai fait plusieurs parties, en fait, séparées. Il y a la partie un petit peu événement de l'histoire, où je déroule donc, effectivement, tous les maires et ce qu'ils ont fait. Il y a une partie qui, pour moi, est très importante. Ça s'appelle « En passant par les villages », où je parle de tous les lieux dits de la commune, y compris ceux qui sont plus habités, qui n'étaient déjà plus habités au moment du cadastre napoléonien, en 1808.
Oui, c'est curieux, ces lieux qu'on trouve, il n'y a pas qu'à la chapelle, on trouve des endroits où il y avait des villages, il y avait 4-5 maisons, un truc comme ça, maintenant c'est dans les bois, ça tombe en ruine,
ça a
été abandonné.
Ben oui.
Oui, c'est assez curieux.
C'est l'évolution, c'était souvent des endroits très isolés, donc après les gens ils se sont un peu regroupés.
Regroupés, oui. Oui. Et puis il y a le petit patrimoine.
Voilà, ça c'est important.
Des lieux-dits, voilà. Mais il y a les patrimoines.
Parce que je fais partie d'une association qui s'appelle la Pierre Angulaire et qui inventorie le petit patrimoine. Donc c'est un sujet que j'ai essayé d'être assez exhaustive sur ce sujet. Donc pour chaque village, Je cite, alors, le grand patrimoine quand il y en a, le petit patrimoine, il y en a pratiquement partout. Oui. Et puis, les habitants, depuis les premiers qu'on trouve dans les premiers registres paroissiaux, voilà, jusqu'à une époque, disons, jusqu'à la guerre de 14, parce que, bon, les archives... après, on n'a pas le droit de... Ouais. Nominativement, après 40, on n'a pas le droit, après 42, je crois, de consulter les registres. Voilà, bon.
Oui, c'est vrai que... Bon, ben, Joachim Sarlat, je ne suis quand même pas tout jeune non plus. Donc, Joachim Sarlat, il y avait, pour le casou, je crois, une chose comme ça, il y avait les processions. Mm-hmm. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais on allait, il y avait les niches où il y avait une Sainte Vierge. Mm-hmm. Et il courait s'arrêter à chaque niche. Et il y a qui fleurissait, etc. C'était... comment je pourrais dire, tout travail.
Oui, oui. Mais je crois que ça n'existe plus du tout depuis longtemps. Hein, depuis, à mon avis, les années 50-60, ça ne doit plus exister.
Oui, 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 mais je me rappelle de ces processions qu'il y avait. Par contre, l'église de la chapelle, il y a, comment je pourrais dire, il y a quand même, quand même bien, parce que il y a un fond quand même, c'est la chapelle.
Il y a un retable du XVIIe siècle qui est classé au monument historique.
Oui, oui.
Et la porte de la sacristie date de la même époque, elle est aussi classée.
Mmh. Puis il y a la halle, qui est la petite halle.
Alors, la petite halle qui était autrefois à Merlande. Et quand Merlande a été fusionnée avec la chapelle Gonaguet, les élus de la chapelle Gonaguet n'ont pas eu de cesse qu'ils ne puissent faire venir cette halle, parce qu'ils disaient qu'elle ne servait à rien à Merlande, et qu'elle aurait été très très utile à la chapelle. Donc ils ont mis quand même aussi pas mal d'années pour y arriver, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. C'est le problème, c'est une commune qui a toujours été pauvre, et donc ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir transporter cette halle. Mais ils ont réussi.
Ah oui. Oui, ils ont réussi, oui, oui, elle est à côté
de, à côté de l'église. L'église,
belle petite halle. Oui, mais il y a des croix aussi. J'ai vu des photos de beaucoup de croix, mais ça, c'est un peu partout qu'on retrouve.
Oui, il y en a une ou deux qui sont belles, celle qui est à côté de l'église, justement, et puis celle qui est à l'entrée, quand on vient de Périgueux, au carrefour avec la route de Bussac, il y a une croix qui est en pierre, qui est assez belle. Les autres, c'est plutôt des croix de bois, donc, qui ont été refaites, donc elles sont neuves, elles ont moins d'histoire. Il y en a une à Merlande aussi, mais bon, sur le plan, disons... architecture, ça n'a pas un intérêt très grand, c'est juste un témoignage d'autrefois, ça.
Ben, c'est-à-dire que quand il y avait les gens qui venaient pour... des abbés qui venaient pour... comme le 15 août, des choses comme ça, bien souvent, on laissait une croix...
Oui, surtout après les missions. Beaucoup de missions qui ont été prêchées... dans les années, on ne sait pas trop exactement, enfin, à plusieurs reprises, dans les années 50 aussi, parce qu'on essayait de... C'était le département de la Dordogne était très, très peu pratiquant, et donc on essayait de les ramener au bercail, et donc il y avait des missions, et donc souvent, effectivement, une croix qui était érigée, qui était souvent payée par un paroissien un peu aisé, et puis qui était fleuri après.
Voilà. Bah, il y en a sur Sarlat, mais il y en a, moi j'habite Marcaille, donc il y a les croix de la mission aussi. C'est quand même un souvenir, quoi. Mais je vois quand même qu'il y avait des pèlerinages.
Oui, il y a une source. Il y a une fontaine, une source qui jaillit du rocher avec un petit bassin. Et donc il y avait des pèlerinages au 15 août. Il y avait une statue de la Vierge donc qui n'est plus en place, qui est dans l'église. Maintenant, elle a été mise à l'abri dans l'église. Mais il y avait des processions. Il y avait beaucoup de monde à l'époque. Mais bon, ça aussi, c'est fini.
Et comment je peux dire, il y a une photo, on voit surtout des dames.
Oui, c'est souvent connu que les femmes allaient à l'église et les hommes au bistrot à côté.
Et les hommes au bistrot.
Pendant la messe.
Ils s'arrêtaient à la porte de l'église. Voilà. Alors, il y a la croix du temple. Il y a la croix du temple, puisqu'on parlait des croix. Il y a la croix du temple, le lieu dit les granges, mais ça, les granges, c'est les granges d'Imières, en principe.
Non, c'est un lieu. C'était des granges. Il y avait des granges à la chapelle. C'était pas forcément de granges d'Imières. C'est des granges pour abriter le.
La croix du cimetière. Et puis, bon, il y a beaucoup d'autres choses. Mais par contre, on retrouve le général Pinoteau.
Oui.
Alors, ça, je ne le connaissais pas, mais on ne connaît pas tout non plus.
Le général Pinoteau avait, dont un des fils avait épousé la propriétaire du château des Brunies, parce que le château des Brunies, après être passé à différentes personnes, est arrivé par héritage à une demoiselle qui a épousé un fils du général Pinotto.
Ah oui. Oui, oui.
Et qui était un des plus gros... on le trouve beaucoup dans les... Dans les recensements de population, il avait beaucoup de personnel, il avait des vignerons, il avait des régisseurs. C'était le plus gros employeur agricole de la commune dans ces années-là.
Oui. Et vous avez trouvé facilement ces
documents ? Alors ça, c'est une...
Oui,
on trouve beaucoup sur Généanet, on trouve tout ce que... Le site Généanet, on trouve toute la généalogie du général Pinotto.
Ah, d'accord.
Et c'est une photo qui me vient d'Arlette Dupontex, l'ancienne secrétaire de mairie, qu'il avait, je pense, récupérée quelque part. Je sais pas.
Mmh. Et c'est vrai qu'en lisant le texte, il n'y avait qu'un propriété passant ensuite, donc, pour les Bruni, je pense, de père en fils... Pierre Arma, Alphonse Pinotto, troisième baron, né à Périgueux, etc. Il était baron d'Empire.
Il était baron d'Empire, oui.
Il était baron d'Empire. Il a une bonne bouille, sur la...
Oui, oui. Un bel uniforme.
Oui, 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 un bel uniforme
de
aussi.
De cérémonie, je pense, parce
oui,
que...
Ça devait, ça devait
pas
écouter,
pour faire la guerre, ça.
Oui, ça devait coûter assez cher. Et je vois, par exemple, en feuilletant ce livre, que vous avez les habitants du village. Et les premiers habitants mentionnés dans les registres paroissiaux sont Pierre Pécou et Catherine Veyri, moi je pense que c'est Y,
ou Veyri,
comme
Péry,
vous voulez,
oui.
Qui eurent un fils, Pierre, et il y a tous les autres patronymes.
Mm-hmm.
Ça fait des drôles de recherche.
Ah ben, après j'ai rentré tous mes... j'ai dépouillé tous les registres, après je les ai mis sur une base de données qui me fait des tris. Donc après il suffit de compter, de relever et de compter, c'est très facile.
Oui, d'accord.
Avec l'informatique, on arrive à faire beaucoup de choses.
Oui, puis il y a des personnages. Il y a le docteur Raoul Rousseau.
Alors, docteur Rousseau, il est devenu maire. Il était avant sur Périgueux.
Oui.
Il a été médecin à la Mutualité Agricole, d'ailleurs. Il est devenu maire de la Chapelle Gonaguet en 1971. Et il est resté jusqu'à sa mort. Et c'est lui qui a fait connaître un essor très important à la commune,
oui.
Qui était, ma foi, très, très moribonde quand il est devenu maire. Enfin, il n'y avait pas grand-chose.
Mmh.
Et donc, avec son conseil municipal, ils ont investi, ils ont amené l'eau, l'électricité partout, parce qu'il n'était pas partout. Ils ont créé des infrastructures, un stade, ils ont vraiment tout fait pour attirer des jeunes couples. Et comme c'est proche de Périgueux, c'est vrai que la commune s'est développée. Elle a triplé entre 1975 et 2018. La population a triplé.
Ah oui.
C'est important.
Il y a, oui, donc il y a le docteur Rousseau, mais des fois il suffit qu'il y ait une personne connue, personnalité, qui lance l'affaire, enfin, qui se donne, et puis ça aboutit pas toujours.
Mais
enfin,
oui, oui, mais bon, après, c'est une question aussi de volonté.
Oui, oui, c'est ça. Mais par contre, quand il y a un feuilleté solide, il y a les jeûners.
Mm-hmm.
Les jeûners avec une belle maison.
Oui, alors la photo qui est dans le livre est une photo ancienne parce que j'ai retrouvé aux archives un acte notarié qui décrit la propriété au moment où elle était vendue et le nouveau propriétaire souhaitait faire un état des lieux. Et donc on a une description de cette maison parce que j'ai vu des photos récentes, ça ressemble plus du tout. Mais la photo qui est dans le livre ressemble beaucoup à la description qu'on a dans ce vieil acte notarié qui date du XVIIIe siècle.
Oui.
Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant.
Oui, oui, c'est intéressant. C'est une maison quand même assez grande.
Oui, oui. C'était un repère noble, ce qu'on appelait le repère noble.
Oui, c'est ça. Mmh. Voilà. Et c'était Gabriel Roux de Luçon.
Qui l'aurait fait construire.
Qui l'aurait
oui.
fait construire. Alors Jean Secret, que vous citez, nous dit que la cheminée monumentale de la grande chambre du premier étage porte un petit écusson armorié avec en pointe les armes des Talleyrand.
Oui, bon, ça, bon, parce qu'il avait épousé une
Et Talleyrand. En chef, celle des Roux de Luçon. Mmh. On retrouve beaucoup de familles nobles. Hein,
Oui, parce qu'en fait, comme c'était déjà au XIXe siècle, même avant la Révolution, comme c'était proche de Périgueux, les nobles et les bourgeois de Périgueux achetaient des résidences secondaires, des belles maisons à la chapelle. Et je pense qu'on retrouverait ça un peu tout autour de Périgueux, mais à la chapelle. Et donc, c'est vrai qu'on retrouve du coup ces familles.
Ben oui, il y a les Landes.
Les Landes, une belle chartreuse, une très belle chartreuse, une des plus vieilles du...
Oui, oui, c'est une chartreuse.
Une des plus anciennes. Et il y a un puits original, j'ai trouvé. Une des plus anciennes chartreuses du Périgord, 17e, elle est.
Mais oui, il y a le mal aux dents. Alors, ça,
mal aux dents, c'était une métairie. Bon, c'est une maison que je trouve belle, moi, vu...
Oui, c'est parce qu'une chartreuse, elle est toute en
oui,
longueur.
Oui, bon, je pense que ça n'est pas une chartreuse, mais...
Oui.
Mais c'est un beau bâtiment.
Alors, bien sûr, il y a les lavoirs. Et les lavoirs, il y en a quelques-uns qui ne sont pas si vieux que ça. C'est ça
les lavoirs, ils datent tous à peu près des années 1920. Ouais, c'est le moment où il y a les progrès de l'hygiène. On encourage les mairies à créer des lavoirs. Et donc, la municipalité de l'époque a créé plusieurs lavoirs, dont un... à Merlande, qui a posé problème, parce que c'est la municipalité qui l'a construite, mais sur un terrain privé, qui avait été laissé. Et quand le terrain a été vendu, les nouveaux propriétaires ont carrément démoli le lavoir. Et voilà. Ah oui. Donc ça...
Ben oui, c'est dommage. Mais oui. les lavoirs, il y avait un peu partout. Hein.
Il y en a trois ou quatre.
Même ça, là, il y avait un lavoir municipal.
Oui, oui, il y en a partout dans toutes les communes.
Dans toutes les communes. Alors, pour revenir, comment je peux dire, donc, à la chapelle, il y a le château des Brunies.
Oui.
On a évoqué ça au micro. Donc, le château des Brunies, Victor Hugo y est passé.
Oui, il était son oncle était un ami du général Pinoteau, donc il était venu rendre visite avec son oncle. Et du coup, quand il a écrit ses Misérables, il y a fait passer Jean Valjean.
Voilà.
C'est une petite anecdote.
Ouais. Oui, oui. Ça fait, il y a une belle bâtisse qui a été surélevée, je crois.
C'est une belle bâtisse, oui, qui a été surélevée. Mais bon, j'espère avoir plus d'informations. Là, je n'avais pas trop creusé parce que mais je dois rencontrer le propriétaire bientôt et on va...
Oui. Alors, il y a vous mettez la forme occitane
Je mets la forme occitane. Il y a eu moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'occitan ni de la toponymie, mais il y a eu, je ne sais plus dans quelles années, dans les années 2000, un groupe de travail sur la toponymie et sur l'occitan avec Jean-Louis Lévesque.
Oui.
Et donc, il avait fait un petit livre avec l'origine des noms et tout ça. Donc, j'avoue que j'ai puisé là-dedans pour... Oui. Pour donner.
Alors, les Brunies, ça serait un domaine qui appartenait à la famille Brun.
Oui.
Oui, tout simplement. Tout simplement. Et donc, on nous dit que le domaine comprend le château, les dépendances et une dizaine de nouvelles habitations, surtout le coteau surprimant le Gotte, construite dans les années 1970. C'est l'évolution de la commune avec l'État moderne, si on peut dire.
Oui, le propriétaire des années 70 a vendu à des constructeurs. Ouais. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de maisons construites de façon un peu anarchique. D'ailleurs, c'est une commune qui s'est beaucoup construite. Ce qui fait que quand on regarde les villages, on n'a vraiment plus aucune idée de ce à quoi ça pouvait ressembler autrefois. La plupart des villages sont très anciens, mais on n'y retrouve plus rien.
De toute façon, comme on disait plusieurs fois, on est aux portes de Périgueux. Donc c'est normal que ces communes connaissent, s'il y a de la place pour construire, elles connaissent une certaine évolution. Quoi.
Bien sûr.
Une certaine évolution. Ce qui est, comme on disait aussi, c'est un peu partout. Alors, il y a Merlande. Alors Merlande, c'est peut-être l'endroit le plus connu.
Oui. C'est réputé. Mais
connu, probablement. Alors, Merlande, en occitan, Merlande, puisque là, se prononce haut, donc il n'y a pas de problème, est probablement une forme contractée de une mauvaise lande.
Oui, c'est un terrain qui n'est pas riche du tout là-bas.
Ouais. Oui,
c'est boisé,
Oui. Alors, l'église initiale qui forme le cœur de l'église actuelle a été construite vers 1140.
Oui, c'était l'évêque de Périgueux avait donné ce terrain aux moines de Chancelade, et donc les moines de Chancelade y ont construit un prieuré, donc une petite église, et puis les bâtiments pour les moines. Et comme elle s'est révélée très petite, ils ont agrandi par une nef qui avait des coupoles, qui se sont effondrées après pendant les guerres de la guerre de Cent Ans, je pense. Et quand on regarde l'église et l'église, la nef est un peu décalée par rapport à l'église ancienne, qui est le chœur actuel, auquel on accède d'ailleurs par quelques marches.
Ouais.
C'est assez amusant. Et donc c'était un moine de Chancelade qui était le prieur, qui était le curé de la paroisse et qui était le seigneur temporel du lieu.
Ouais. Ah oui. Alors, l'église initiale qui forme le cœur de l'église actuelle a été construite vers 1140, comme on disait, sur une crypte semi-enterrée et a été couverte à l'origine d'un toit à deux pentes avec des pignons est-ouest. Donc c'était parois de pente, bon, ça existe, alors, il y en a beaucoup, mais est-ouest, il devait prendre la pluie là. Alors, très vite, l'oratoire se révéla trop petite et il fut agrandi par l'enjonction de deux travées couvertes de coupoles sur pendentifs qui ne sont pas tout à fait dans l'axe du chœur.
C'est ce que je vous disais.
Ça, quand on arrive à Merland, on ne le voit pas forcément, mais enfin bon...
Ah si, on le voit bien.
Oui, oui.
Enfin, il faut le savoir peut-être.
Oui, oui, il faut le savoir, exactement, c'est ce que je veux dire. Quand on le sait,
quand on le sait, on le voit bien.
Voilà, oui, d'accord. Il faut avoir l'œil exercé, l'œil exercé. Alors, sans doute dans les années 1170, lors des conflits avec les Anglais, la coupole occidentale s'effondra, elle fut reconstruite et couverte d'une voûte en berceau brisé. Dommage qu'il n'y ait plus la coupole. Bon, à l'extérieur, les murs comportent des contreforts. La chapelle initiale est moins élevée que la nef. Sa toiture de tuiles, alors là, faut avoir un œil exercé pour tout ça. Creuse comporte une croupe à l'est. Une corniche à mondillons sculptée marque la base de la chambre de défense. La toiture de la nef est à deux versants également constituée de tuiles creuses. La toiture de l'échauguette est en pavillon avec quatre versants. On peut noter la présence d'un cadran solaire sur le mur sud.
Mais il est dans la propriété privée. Ah, donc on ne peut pas le voir de l'extérieur.
On peut pas voir
il faudrait rentrer parce qu'il est dans la partie du mur qui est dans la propriété privée.
Enfin, il y a un très bel portail d'entrée. Portail d'entrée. Il y a une grange d'hymière. Ah, ben voilà, grange d'hymière.
Oui, présumée d'hymière, parce que bon, on n'a pas trouvé de texte qui le confirme. C'est Jean Secret qui disait ça.
Ah, d'accord. Bon. Et puis il y a de très beaux chapiteaux.
Oui, dans le chœur.
Il y a des croix qui sont en bois. Il y a le pavillon qui est pas mal là d'ailleurs.
Oui, ça c'est. Ben, c'était l'ancienne résidence des seigneurs de la chapelle Gonaguet, le pavillon.
Ah, d'accord.
Et ça a été un pavillon de chasse de l'évêque de Périgueux.
Ah oui. Il y a tout ça, je crois qu'on va arriver d'ailleurs à la limite de la demi-heure. Alors donc, écoutez, si vous voulez connaître tous les détails de la chapelle Gonaguet et de Merland, qui a été une commune rattachée donc à la chapelle Gonaguet, il y a eu quelques fluctuations, mais c'est arrivé comme ça. Alors deux paroisses, une commune, Porte de Périgueux, c'est de Catherine Schunk, voilà, et donc c'est aux éditions du Perce-Oreille, et je crois qu'on peut le trouver dans toutes les librairies, y compris à Périgueux, évidemment, voilà, aucun problème. Donc, si vous voulez vous plonger dans l'histoire de ces deux communes, qui n'en font plus qu'une, eh bien, ma foi, donc, rendez-vous à la librairie et aux éditions du Perce-Oreille. Voilà.
On peut le trouver aussi à la mairie de la Chapelle Gonaguet. Ils en ont quelques livres en dépôt.
Ah, d'accord.
Pour les habitants, ça peut être pratique.
Voilà. Mais Madame Chac, je vous remercie d'être
venue. C'est moi
qui
vous remercie.
Jusque-là. Et je remercie également notre technicien qui a tout ordonné. Voilà. Merci beaucoup à tous.
Merci.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.